Cousin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, que faire pour les enfants sans identité? Environ 230 millions d'enfants dans le monde n'ont pas été enregistrés à l'état civil au moment de leur naissance. En Afrique, 95 millions d'enfants, soit un enfant sur deux de moins de 5 ans, est sans état civil. Ces enfants sont de futurs apatrides. Concrètement, sans état civil, ces enfants fantômes n'ont parfois pas accès aux soins médicaux, à l'inscription à l'école primaire, et en tout cas sont entravés pour entrer au lycée parce que leur examen de passage n'est pas reconnu. Ces enfants sont aussi menacés d'exploitation, de mariage précoce. Ils ne peuvent pas porter plainte en justice puisqu'ils n'existent pas légalement. Il faudrait aussi parler de ces enfants comme d'une cible de choix pour les recruteurs djihadistes, par exemple. Alors pourquoi les États et les administrations ne parviennent pas à faire enregistrer tous les enfants? Comment travailler avec les familles? Quel peut être aussi le rôle des élus locaux, des chefs communautaires sur le terrain et des organisations internationales? Les audiences foraines dans les villages sont-elles efficaces ou pas? On va en discuter avec nos invités qui sont de passage à Paris à l'occasion d'une grande conférence sur le sujet qui est organisée par l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. Et quant à vous, les voisins et les voisines, si vous êtes concernés par le sujet, appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Je vous présente nos invités dans le studio avec qui vous allez pouvoir dialoguer. Laetitia Bazivey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de la section protection de l'enfant à l'UNICEF Sénégal, donc le bureau à Dakar. Vous êtes de passage à Paris. Également avec nous, Béatrice Epaille, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi de passage à Paris. Vous êtes une députée centrafricaine et vous présidez aussi l'association La Voix du Cœur en République centrafricaine. Également avec nous, Dibam Diongyang, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tchadien, directeur de l'association de protection des droits de l'enfant au Tchad, communément appelé l'ABDET. Vous allez bien sûr pouvoir dialoguer avec nos auditeurs. Je vous rappelle notre numéro 33 1 84 22 71 71. Voici quelques messages postés par nos voisins et nos voisines. Adonis et Tabounia en RDC. Il nous dit « Moi, lors de la naissance de mon fils, j'ai demandé à déclarer mon enfant, mais le responsable m'a beaucoup compliqué la vie. Je suis allée à la commune, mais le préposé de la commune m'a dit que comme j'étais pas de la commune, il pouvait pas déclarer l'enfant. L'État est responsable de cette situation, nous dit Adonis. Il devrait sanctionner ces personnes. Blanchard est à Kinshasa, dans le même pays. Beaucoup pensent que c'est payant de déclarer la naissance de son enfant. Nombreux sont ceux qui ne voient pas l'intérêt de déclarer leur enfant, sans compter que souvent les centres d'enregistrement sont éloignés des domiciles, que les routes sont impraticables avec les intempéries. Il faudrait absolument décentraliser ce pouvoir aux chefs des collectivités ou chefs coutumiers et expliquer à tout le monde que la déclaration de naissance, c'est utile pour l'avenir, pour le mariage, pour le divorce, pour le décès. Ismaïla à Dakar nous dit « Ne pas déclarer son enfant est une violation du droit de l'enfant ». Effectivement, il a raison. Et en plus, c'est bien parce que cette année, en ce mois de novembre, c'est la Convention des droits de l'enfant fête ses 30 ans et elle a permis de nombreuses avancées dans le monde pour la situation des enfants. Et puis tout de suite aussi, un message posté sur WhatsApp d'un voisin qui est dans le nord du Cameroun, à Maroua. Écoutons-le.
Bonjour Abdoulaye Oldou, qui ne manque jamais votre émission 7 milliards de voisins. Ici, à l'extrême nord du Cameroun, vraiment, c'est la catastrophe. Les enfants naissent au acte de naissance, rien, rien. Rendez-vous compte, même dans le chef-lieu de la région de l'extrême nord, ne soyez pas étonnés de trouver des enfants sans acte de naissance. Bon, c'est un problème que le gouvernement a pris à bras le corps. Les ONG, les chefs traditionnels, la société civile, tout le monde s'est mobilisé pour que ces enfants aient leurs actes de naissance à la naissance. Ça, c'est le droit le plus absolu de chaque enfant. Beaucoup reste à faire. Il y a des barrières, il y a la lenteur administrative, il y a le manque de sensibilisation, il y a l'enclavement. Tout ceci vraiment concourt à ce que dans certains coins reculés, les gens n'ont pas l'acte de naissance. Il y a les sociétés civiles, les ONG comme ADELPA, UNICEF, qui vraiment parcourent du village en collaboration avec les chefs des villages, les groupes communautaires, les directeurs des écoles. on enregistre les gens et puis bon, on vient à la justice faire un jugement foraine et puis on les délivre les actes de naissance. Le travail reste quand même à faire, mais on est là, on s'attelle là-dessus.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Voilà, un message d'un voisin qui résume quand même, qui balaye bien tous les problèmes inhérents à ces enfants sans identité. Je voudrais qu'on revienne à la situation de vos pays respectifs. Déjà, on va commencer avec vous, Béatrice Epaille, pour le cas de la République centrafricaine. Est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre d'enfants non enregistrés à l'état civil, enfants fantômes, comme certains disent?
Je crois que pour la République centrafricaine, les agences des Nations Unies qui sont sur place ont fait des études, ils ont des statistiques. Mais dire aujourd'hui en Centrafrique qu'il y a tel nombre d'enfants qui ne sont pas enregistrés dans un pays où 80% du pays est occupé, ça, c'est très difficile de sortir un chiffre.
Ouais, on est dans un pays en conflit depuis plusieurs années. Dibam Diangyang, vous pour le Tchad, où est-ce qu'on en est?
Il est bien vrai que la situation de l'état civil au Tchad est à un niveau très alarmant, puisqu'en réalité, les partenaires au développement du Tchad produisent régulièrement des rapports pour décrire la situation en question. 9% des naissances au Tchad sont déclarées et enregistrées à l'état civil.
Vous avez dit combien ?
9%. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un des rapports qui a été produit par l'UNICEF, qui le dit. Soit un enfant sur 10 est déclaré et enregistré à la naissance. Donc vous comprenez globalement que la situation de l'état civil au Tchad est difficile.
Et donc si pourquoi... on regarde le verre à moitié vide, ça veut dire que près de 90% des enfants n'ont pas d'existence légale,
n'ont pas d'identité. N'ont pas d'existence juridique, puisque moi-même je refuse l'expression enfant fantôme. Parce que ces enfants n'ont pas choisi d'être dans cette situation fantomatique. C'est du fait de la mauvaise gestion de l'état civil dans certains pays que ces enfants se retrouvent dans cette situation-là. Et moi, ce que j'ai toujours déploré est que les gouvernants ne fournissent pas assez d'efforts pour mener des études, donner des statistiques sur la situation en question. Pour ce qui est du Tchad, il n'y a pas de données fiables ou de données disponibles qui peuvent donc renseigner les gens sur le nombre d'enfants non enregistrés à l'état civil. Il n'y a que des partenaires de développement qui font ce travail.
Si on vous écoute, ça veut dire que seule une petite élite a le privilège d'avoir des enfants enregistrés à l'état civil, pour ce qui est du Tchad. Laetitia Bazivaï, pour ce qui est du Sénégal, parce qu'on voit bien d'un pays à l'autre, c'est quand même très contrasté. Alors, très peu de données pour la République centrafricaine, voire pas de données parce que pays en conflit. Situation assez dramatique au Tchad. Pour le Sénégal, c'est nettement mieux.
Oui, alors pour le Sénégal, effectivement, le taux d'enregistrement des enfants de moins de 5 ans à l'état civil est de 77%. Mais ça veut dire effectivement qu'on a quand même un enfant sur 4 qui n'est pas enregistré à l'état civil. Et en même temps, il faut faire attention parce que ces taux nationaux, ils cachent des grandes disparités régionales. Pour le Sénégal, on a des régions où près de 40% d'enfants ne sont pas enregistrés à l'état civil. Donc, il faut être très précautionneux sur les chiffres nationaux.
Même dans la pire des situations au Sénégal, c'est déjà deux fois mieux que la situation au Tchad.
Hein. Voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai que l'enregistrement des enfants à l'état civil, dans des états fragiles ou qui sont touchés par des urgences prolongées, pose problème. Le Tchad, les dernières données qu'on a, c'est effectivement 12% des enfants de moins de 5 ans qui sont enregistrés à l'état civil. En République centrafricaine, c'est 61%. En République démocratique du Congo, c'est 25% des enfants qui sont enregistrés à l'état civil. Donc c'est une majorité, en tout cas, d'enfants qui sont privés d'identité.
Est-ce qu'on peut réexpliquer la spirale dans laquelle est engagé un enfant, malgré lui, lorsqu'il n'est pas déclaré à l'état civil à la naissance, Laetitia Bazivaï?
Oui, alors les conséquences pour un enfant de ne pas être enregistré à l'état civil, ça le met tout de suite, comme vous l'avez dit, dans une spirale générale d'exclusion qui va le toucher durant son enfance et qui va se poursuivre une fois adulte s'il n'est pas régularisé à l'état civil. On sait que l'acte de naissance est un document juridique qui établit une identité, une filiation, fixe aussi le lieu où l'enfant est né et l'identité de ses parents. Et donc, sans cet acte de naissance, il n'y a pas de filiation. Il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de pièce d'identité. Donc déjà, ça, c'est la première des conséquences, c'est le déni d'identité officielle. Également, l'enfant qui n'est pas enregistré à l'état civil va être confronté à toute une série d'exclusions. En premier lieu, l'exclusion scolaire. Donc, dans la plupart des pays, il est vrai qu'en général, les ministères de l'Éducation nationale privilégient la scolarisation. Donc, il y a beaucoup de pays qui ont revu leur législation pour autoriser l'inscription de l'enfant à l'école sans acte de naissance.
C'est-à-dire que dans ces cas-là, on ne fournit rien du tout, on donne juste l'enfant, son nom
et... Absolument. À ce moment-là, c'est effectivement, uniquement sur la base de la déclaration des parents, qui sont les parents où cet enfant est né. Mais à un moment, cette absence d'acte de naissance va rattraper l'enfant, puisqu'en fin de cycle primaire, il y a un concours, en tout cas pour le Sénégal, il y a un concours d'entrée
dans la plupart
en sixième, et je pense que c'est aussi le cas dans la plupart des autres pays. Et pour passer ce concours d'entrée en sixième, il y a un examen et pour lequel il faut un acte de naissance. Et à ce moment-là, chaque année, au niveau du Sénégal, il y a une alerte, une urgence pour régulariser.
Parfois, il y a des jeunes qui arrivent à passer entre les mailles du filet ou à s'arranger système D et arriver jusqu'à l'université miraculeusement. Mais on a déjà eu des cas d'auditeurs qui nous appelaient, qui nous disaient « Mais mon diplôme, il n'est pas reconnu à l'université parce qu'à un moment donné, le jeune va être rattrapé par ce manque d'identité. » Concernant l'inscription à l'école primaire, quelle est la situation en République centrafricaine? Béatrice Epaille, est-ce que l'école accepte ces enfants qui ne sont pas déclarés à l'état civil?
Oui, depuis la crise, l'éducation nationale autorise les enfants qui n'ont pas d'acte de naissance à s'inscrire à l'école. Mais nous travaillons avec les enfants de la rue. C'est dramatique. L'enfant qui arrive chez nous arrive avec parfois un surnom. Et un enfant de 4 ans ne peut pas vous dire qui est son père, qui est sa mère. Mais dans notre vocation, c'est d'amener l'enfant à l'école.
Et pour le Tchad, d'Ibam Diongyang?
Oui, il est bien vrai que globalement, le Tchad exige qu'un enfant soit inscrit sur la base d'un acte de naissance à l'école. Ça, c'est une vérité. Et maintenant, cette exigence dépend des administrations scolaires. Il y en a qui acceptent les enfants sans acte de naissance, il y en a qui exigent cet acte de naissance, je veux dire à l'entrée. Maintenant, plus d'un million d'enfants inscrits dans le primaire qui ne sont pas enregistrés à la naissance. Et comme madame l'a si bien dit, lorsque ces enfants veulent passer le concours d'entrée en sixième, étant donné que l'administration exige la présentation d'un acte de naissance comme condition, du coup, ces enfants ne peuvent pas se présenter à l'examen et finissent par abandonner les études. Puisque les parents eux-mêmes, ce n'est pas une question d'ignorance, c'est une question d'éducation civique et d'information publique. Les autorités ne font pas assez. Il est bien vrai qu'on a de beaux textes, mais il va falloir qu'il y ait des stratégies nationales d'information, d'éducation civique, et de suivi et d'évaluation de toutes ces dispositions que nous mettons en place.
Alors, vous faites bien, vous incriminez beaucoup l'administration, les États. On a pas mal d'auditeurs quand même qui ne comprennent pas les raisons des parents. Aïssa, qui est à Ouagadougou, au Burkina, elle dit « Mais aujourd'hui, c'est facile de déclarer la naissance de son enfant, mais ce sont les parents eux-mêmes qui négligent de faire cette déclaration alors qu'ils ont l'opportunité de le faire à l'hôpital. Encore faut-il accoucher à l'hôpital. Et ils attendent l'âge où l'enfant doit aller à l'école pour le faire, voire ils ne le font pas. Blaise aussi, qui est à Boisflay, en Côte d'Ivoire, dans le centre du pays, nous dit « Dans chaque maternité, il existe un service d'état civil pour l'enregistrement des naissances. » Alors, Laetitia Bazivey, qu'est-ce que vous pensez de ces témoignages? Est-ce que réellement, alors c'est un problème de méconnaissance, un problème de motivation de la part des parents? Quels sont les freins réels pour que ces parents ne fassent pas les démarches?
Oui, alors c'est vrai qu'on a tendance à incriminer les parents. Une chose qu'il faut dire, c'est que dans les systèmes d'état civil francophones, effectivement, on fait peser sur les parents la responsabilité, l'obligation de déclarer leurs enfants à l'état civil. Maintenant, en termes de, d'obstacles, quels sont les obstacles qui vont se dresser justement sur la route des parents? D'abord, c'est la proximité des services d'état civil. C'est-à-dire que les services d'état civil sont le plus souvent quand même assez éloignés des populations. En général, ils sont au niveau des villes, au niveau des municipalités. Ils ne sont pas nécessairement dans les structures de santé. Donc, ça veut dire qu'un parent, pour déclarer son enfant à l'état civil, déjà, il faut qu'il soit informé, il faut qu'il soit conscient de l'importance de cet enregistrement à l'état civil. Deuxièmement, il faut qu'il sache quand déclarer, comment déclarer, quelles sont les pièces à fournir, dans quel délai il faut le faire ou déclarer. Souvent, les parents n'ont pas cette information-là. Il n'y a pas systématiquement des campagnes massives d'information.
Et si soi-même, on n'a pas été déclaré à l'état civil, qu'est-ce qu'on a comme pièce à montrer pour déclarer ça pour son propre enfant?
Voilà. Oui, alors, exactement. Sur la législation, alors, disons que la législation, normalement, en principe, demande pièce d'identité des parents pour déclarer son enfant à l'état civil, la pièce d'identité des deux parents. Ensuite, à défaut de cette pièce d'identité, deux témoins, le certificat d'accouchement et deux témoins remplacent, je dirais, les pièces d'identité des parents. Donc là où les difficultés vont commencer à surgir, c'est si la maman a accouché à domicile. À ce moment-là, il faut qu'elle aille dans un certain délai chercher le certificat d'accouchement, le certificat de naissance en tout cas pour l'enfant. Et effectivement, il faut que les témoins, je dirais, puissent avoir eux-mêmes des pièces d'identité pour attester de leur identité. On a également, une des difficultés qu'on a aussi, c'est pour les naissances, pour les enfants qui sont nés soit de mères célibataires, soit disons qui peuvent être mariés, mais dont le mari a voyagé ou n'est pas présent à ce moment-là. Et à ce moment-là, les parents déclarants peuvent être confrontés à une mauvaise compréhension, une mauvaise aussi application des textes par les agents d'état civil eux-mêmes. Ouais. Les agents d'état civil sont, il faut le dire, c'est un corps de personnel qui n'est pas fonctionnaire en général, hein, et qui n'ont pas forcément reçu de formation initiale, qui ne connaissent pas, disons, qui par excès de zèle vont être extrêmement rigoureux sur l'application des textes, et donc du coup les obstacles vont...
Et ne vont pas expliquer comment ils peuvent contourner le problème quand ils n'ont pas les pièces. Mm-hmm. Au Sénégal, on a un an comme délai, hein, c'est ça, pour
Absolument.
Inscrire son enfant. Au Tchad, c'est beaucoup moins, c'est 2 mois.
2 mois.
Donc là, effectivement, quand on n'a pas les pièces, bah, franchement, et puis surtout si on a d'autres problèmes au quotidien, c'est pas forcément...
Mais 4 mois pour... des populations nomades et des populations en transhumance. Oui.
On ne l'a pas encore dit, mais quand on n'a pas de filiation, quand on n'a pas de nationalité, quand on n'a pas d'identité, on n'a pas de droit de vote non plus.
Oui. Ça, c'est un enjeu.
C'est
un enjeu parce qu'on se demande parfois, est-ce que c'est exprès que les administrations ne délivrent pas les actes de naissance aux usagers, aux enfants, parce que cet enfant qui va grandir sans acte de naissance, comment il va s'enrôler
sur les listes électorales?
Sur les listes électorales. Bon, on laisse parfois une ouverture. Parfois, il y a les deux témoins, comme disait madame, deux témoins peuvent attester que cette personne est née à tel moment, son père, sa filiation, etc., pour reconstituer un jugement supplétif, par exemple, pour que la personne ait un acte de naissance et puisse s'enrôler. Mais dans nos États où on a une faiblesse en matière démocratique, je pense qu'il faut une bonne sensibilisation, même pour nous les ONG, nous les de la société civile, il faut que ça soit nous-mêmes qui poussons les choses, parce que si on laisse aux administrations qui ne sont jamais présentes à l'intérieur du pays de le faire, il n'y aura jamais des enfants enregistrés, ni des personnes adultes qui auront des pièces d'identité.
Mmh. Béatrice Epaille, vous êtes députée en République centrafricaine. C'est un des pays du continent qui enrôle le plus d'enfants soldats. Est-ce que l'absence d'identité de la majorité, la grande majorité des enfants, c'est vraiment le terreau pour l'enrôlement, non pas sur les listes électorales, là, mais l'enrôlement des enfants soldats?
Ah oui. Et comme je disais tout à l'heure, nous travaillons avec les enfants de la rue. Et beaucoup d'enfants de la rue sont des enfants qui ont été enrôlés et qui ont fui les groupes armés pour arriver en ville et atterrir dans les rues de Bangui, par exemple. Mais ça, un enfant dont les parents sont déplacés, qui se perd, c'est vraiment, il est à la merci de l'enrôlement des groupes armés. Et ça, le gouvernement et tous ceux qui nous aident pour rechercher la paix doivent avoir un œil dessus, faire en sorte que ces enfants ne soient pas des enfants anonymes, ouais, perdus.
Ça veut dire que vous avez parfois des enfants qui, n'ayant pas de papier d'identité, ne les ayant jamais vus, même s'ils les ont perdus, quand on en a eu, on a quand même la mémoire du lieu de naissance. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui parfois ne savent pas très bien où ils sont nés, où ils ont grandi.
Ils ne savent pas. Il y en a qui viennent, 4 ans, 5 ans, qui arrive, tu demandes son nom, parce que nous, quand un enfant arrive,
à 4 ans, ils sont quand même très jeunes. Hein.
Oui, pour l'enrôlement, vous voulez dire?
Oui, pour l'enrôlement.
Ah, pour l'enrôlement,
quand
oui.
Quand on veut retrouver les familles, par exemple.
Si, non, il y a des enfants, les enfants en général, ils savent d'où ils viennent. Ils viennent parce qu'ils ont fui les combats qui sont à l'intérieur du pays. Et comme on dit souvent, Bangui, la capitale, est devenue vraiment un camp de déplacés. Beaucoup de personnes viennent là et les enfants viennent en rupture totale avec leur famille. Donc quand ils sont en rupture totale, n'importe qui peut les enrôler et faire n'importe quoi avec eux. Donc c'est ça le plus difficile. Mais pour chercher la paix, il faut que tous ces enfants soient identifiés et qu'on sache d'où ils viennent et qu'ils soient sous la protection des adultes. Or, ces enfants ne sont pas sous la protection des adultes. Merci.
Est-ce que vous êtes toujours, vous restez bien avec nous, hein, Béatrice Epaille. Est-ce que dans le Sahel, il y a aussi ce problème-là de terrain fertile pour les djihadistes, d'enfants qui ne sont pas déclarés à l'état civil, Laetitia Baziveil?
Écoutez, de toute façon, le fait qu'un enfant soit pas enregistré à l'état civil, c'est une vulnérabilité, c'est un handicap, je dirais, qui l'expose à toute forme de d'enrôlement, de traite. Il y a aussi la question du mariage d'enfants. Donc, je donne un exemple. Hein. Au Sénégal, on a 1 million, à peu près 15% des enfants de moins de 18 ans qui ne vivent ni avec leur père ni avec leur mère. Ça veut dire à peu près 1 million d'enfants qui ne vivent ni avec leur père ni avec leur mère. Alors, ça rentre dans des pratiques, des traditions de placement à l'extérieur de la famille, parfois pour des motifs de scolarisation. En tout cas, ce n'est pas nécessairement, je dirais, en soi une situation de risque. Mais il n'empêche qu'on a des enfants qui vivent avec des tuteurs et ces enfants-là, le risque pour eux d'être exploités, victimes de mauvais traitements, est accru et peut se poser. Et à ce moment-là, on a un vrai souci, notamment sur quand arrivent des cas extrêmes et que ces enfants sont détectés et pris en charge par les services sociaux, c'est toute la question de la recherche des familles qui peut poser problème. Parce que ces enfants-là peuvent... Souvent, ils ont été placés jeunes. Et à ce moment-là, l'identification des parents et la recherche des familles peut poser problème. Si on avait un système d'état civil performant, on pourrait, en tout cas informatisé, on pourrait facilement, et si ces enfants étaient enregistrés à l'état civil, on pourrait facilement retrouver les parents.
Ouais, alors, c'est vrai que dès qu'il y a des conflits, le déplacement de population très difficile à contrôler. Et donc, d'autant plus qu'on a des enfants dont on ne sait pas très bien d'où ils viennent. Yongyang Dibam, qu'est-ce qui se passe pour les enfants réfugiés soudanais au Tchad? Que prévoit la loi tchadienne concernant leur identité?
Selon le code de la nationalité, tout enfant qui naît sur le territoire tchadien a la nationalité tchadienne. Cette disposition n'est pas appliquée aux réfugiés soudanais. C'est un constat qu'on a eu à faire. C'est-à-dire qu'il y a une disparité créée de fait entre les enfants soudanais et les enfants centrafricains. Je m'explique. Lors de nos enquêtes, on s'est rendu compte que les enfants soudanais sont enregistrés sur un cahier journal de naissance qui n'a d'ailleurs aucune valeur juridique. Mmh. ils ne peuvent pas avoir un acte de naissance. Par contre, pour ce qui est des enfants centrafricains, ces enfants peuvent, du moment où l'enfant du réfugié, l'enfant qui est né sur le territoire tchadien, des parents réfugiés, peut facilement avoir accès, peut être enregistré, déclaré, enregistré à l'état civil. Mais tel n'est pas le cas des enfants soudanais. On a eu à poser cette question à certains responsables. La réponse que ces responsables nous ont donnée m'a beaucoup surpris. C'est-à-dire que les enfants soudanais restent des enfants soudanais et que les enfants centrafricains sont les enfants centrafricains. Globalement, il faut comprendre la chose de la manière la plus facile. C'est-à-dire que les autorités pensent que les enfants soudanais ne sont pas proches du Tchad et que les enfants nés de parents réfugiés centrafricains sont beaucoup plus proches des Tchadiens. Je n'ai pas compris cette proximité. Est-ce qu'elle est culturelle? Est-ce qu'elle est ethnique? En tout cas, un enfant reste un enfant, fut-il un enfant soudanais ou un enfant centrafricain.
Derrière, il y a des ressorts très politiques, finalement.
Voilà. Donc, il va falloir qu'on puisse appliquer les dispositions qui sont contenues dans le code de la nationalité. Donc, moi, je trouve que cette disparité créée, de fait, n'a pas lieu d'être.
Alors, comment faire pour aider les enfants sans identité? Il y a tout de même des initiatives qui sont menées dans des pays qui se mobilisent. Avec quelle efficacité? Il faut qu'on en discute. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Vous nous appelez, bien sûr, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Et tout de suite, un message d'un voisin posté sur WhatsApp du Congo Brazza.
Bonjour les voisins et les voisines. Je suis André Alain, je vous appelle depuis le Congo Brazzaville, plus précisément de la ville Océane, Pointe-Noire. Dans notre pays, le Congo, le gouvernement a mis en place une politique de réinsertion sociale qui vise d'abord à les recenser par rapport aux témoignages des parents, puis les inscrire au centre d'état civil de la localité la plus proche pour leur attribuer une identité. Merci.
Voilà, ça c'est pour le cas du Congo Brazzaville. On va donner aussi la parole à Médard qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Bonjour Médard.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour RFI.
On vous écoute, vous souhaitez nous parler de la mobilisation de votre pays concernant l'enregistrement des enfants.
Absolument, Emmanuel, vous savez, tout ce qui a été dit sur le plateau, ce qu'on vit, c'est ce que les Bénins vivent ici au pays.
Oui.
Vous savez, moi qui vous parle, je suis un exemple palpable. Parce que j'ai eu mon CEP, j'ai eu mon BPC, j'ai eu le bac sans acte formel de naissance. C'est-à-dire, je ne voulais pas utiliser le mot, c'est un acte faux, c'est un acte faux que j'ai pu avoir ce diplôme-là.
Comment sans être déclaré à l'état civil, comment à chaque fois vous avez pu trouver une solution pour faire valoir vos diplômes?
Vous savez, quand je préparais mes dossiers pour le CEP, mes parents ont dit, parce que à ma naissance, ils n'ont pas pu déclarer, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas déclaré ma naissance. Donc quand il s'agit de fournir les documents pour mon CEP, ils ont dû courir de gauche à droite pour avoir un acte de naissance. Alors pour moi, c'est un acte formel et qui a d'existence. Mais c'est quand j'évoluais, quand mon âge évoluait, que moi-même je me suis rendu compte que ce qui a été fait n'était sur aucune base. C'est un faux acte que je traînais jusque-là. Voilà.
Et qui a été obtenu moyennant quoi finalement? Une petite rétribution d'agent administratif?
Je n'ose pas le dire publiquement, mais vous m'avez obligé, c'est ça. C'est ça que c'est passé.
Ah non, moi je vous oblige à rien, je vous pose la question. Hein, non.
Absolument, sinon j'ai dû dépenser pour redonner vie à mes diplômes, redonner existence à mon âge de naissance.
Vous savez combien vous avez dépensé pour donner vie à vos diplômes, comme vous dites, avec des papiers pas vraiment juridiques?
Oui. J'ai demandé exactement 60 000 francs CFA.
60 000 francs CFA.
Voilà.
Pour un résultat finalement assez contestable. Aujourd'hui, le Bénin se mobilise. Vous vouliez nous en parler?
À l'avènement du gouvernement actuel, plus exactement en 2017, le gouvernement a lancé une opération d'identification de population. Donc, à la suite de cette opération, on a constaté, sinon ils ont constaté que la plupart, sinon plus de millions de Béninois se sont enregistrés sur la base des témoignages. Je donne un exemple, Emmanuel, oui, elle est née dans le quartier, on la connaît. Donc, c'est sur ces témoignages que beaucoup de Béninois se sont...
Ça se fait sur la base de témoignages d'élus locaux, en principe. Hein. C'est une phase pilote de distribution gratuite des actes de naissance. Hein. Là, j'ai le texte du gouvernement de la République du Bénin. Et ça, pour l'instant, il y a 2,5 millions de personnes qui ont été enrôlées sans acte de naissance. Ça veut dire qu'il y a finalement une sorte de rattrapage. Est-ce qu'on peut utiliser ce mot-là, Laetitia Bazivey, quand on procède à de l'enrôlement à partir de témoignages pour des enfants, pour des personnes qui n'ont jamais été déclarées.
Oui, en fait, la loi prévoit. Hein, ce sont des audiences foraines qui permettent de délivrer des jugements supplétifs qui remplacent la déclaration à l'état civil. Donc, en général, effectivement, les dossiers sont constitués, les témoins attestent de l'identité de l'enfant et de sa filiation. Ce sont des opérations de régularisation. Peut-être là-dessus, il faudrait insister sur le fait que c'est important que ces opérations se fassent, mais elles doivent être exceptionnelles. Parce que, et en particulier...
C'est payant pour les populations ou pas?
Oui, absolument. Le jugement supplétif a un coût. Alors, il varie.
Et c'est beaucoup plus cher que de déclarer son enfant à la naissance.
C'est-à-dire, je prends l'exemple du Sénégal. En tout cas, la déclaration à l'état civil, elle est gratuite. Elle ne coûte rien. Même la délivrance d'un acte de naissance est gratuite. Et après, si on dépasse le délai, à ce moment-là, c'est le coût d'une procédure judiciaire, avec toute la complexité que ça peut avoir.
Juste petit retour sur la déclaration gratuite. C'est sur le papier, dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que vous confirmez ou pas, Dibab Diongyang, au Tchad?
Oui, exactement. Puisque au Tchad, les dispositions légales prévoient que... la déclaration et l'enregistrement à la naissance est gratuit, mais dans la pratique, on se rend donc compte que les officiers d'état civil demandent quelque chose avant de procéder à ces formalités-là. Donc, c'est une réalité sur le terrain.
Béatrice Epaille, vous confirmez aussi pour la Centrafrique?
Oui, mais je voudrais revenir. Les actes de naissance, comment les obtenir? Il y a des gens qui achètent ces actes de naissance, qui ne sont même pas nés en Centrafrique, venus d'ailleurs, même à l'âge adulte, ils reconstituent leur acte de naissance sur le sol centrafricain, moyennant quelque chose. Le monsieur qui a parlé tout à l'heure a raison. C'est coûteux pour ceux qui viennent acheter ces actes de naissance. Mais pour un enfant normal, c'est gratuit. Mais quand on veut reconstituer, il y a aussi l'inertie administrative. Il y a aussi les étapes qu'il faut payer. Pour nous, les enfants de la rue, on fait l'écoute de l'enfant, mais on va chez le médecin, on paye 2000 francs CFA pour donner l'âge apparent à l'enfant. Et après, nous allons au niveau du tribunal pour la délivrance du jugement supplétif qui est aussi 2000 francs. Et après, on va à la mairie, dans un centre d'état civil, pour avoir l'acte de naissance de l'enfant. Encore, c'est coûteux. Donc, nous, en tant qu'ONG, qui envoyons les enfants à l'école, qui reconstituons toujours les naissances des enfants, c'est coûteux. Et quand je parlais d'inertie administrative, tu peux aller plusieurs fois et il y a le transport à payer, ainsi de suite. On a fait une moyenne de 10 000 francs par enfant.
Et 15 euros. C'est énorme pour des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Vous continuez de nous appeler. On remercie beaucoup cet auditeur qui nous a téléphoné de Cotonou, Médard. Laetitia Bazivey, au Sénégal, quand il y a des audiences foraines, ça veut dire qu'avec des jugements supplétifs, donc une sorte de rattrapage, hein, une inscription à l'état civil a posteriori, on l'a vu, ça coûte pour les familles, mais ça coûte aussi pour les communes, pour les États, qui payent? Parce qu'il faut déplacer un juge. Dans ces cas-là, comment ça marche?
Oui, alors souvent, malheureusement, les audiences foraines, elles sont soutenues par les partenaires. Donc c'est souvent dans le cadre de projets.
Les organisations internationales, par exemple,
voilà,
comme l'UNICEF.
Alors nous, on ne le fait pas au Sénégal. On l'a fait jusqu'en 2017. Nous, on priorise l'appui à l'enregistrement à l'état civil de routine, c'est-à-dire dans les délais. Maintenant, pour revenir à votre question sur ces audiences foraines, il s'agit effectivement de déplacer un juge. Il s'agit de constituer aussi en amont, aider les familles à constituer leur dossier, parce qu'il y a quand même un dossier à constituer. Ensuite, il va y avoir un coût aussi de retranscription des actes à l'état civil. Et souvent, les services d'état civil demandent... Il y a un volume, je dirais, d'actes de naissance, une retranscription dans les registres et des actes de naissance à délivrer. Donc, il y a tout un volume dans un temps exceptionnel donc pour délivrer ça. Donc, il faut indemniser, je dirais, les agents d'état civil. Donc c'est toute une procédure qui engage des acteurs au niveau de la justice et au niveau de l'état civil, avec des coûts qui sont évidemment supportés par les familles et, dans des cas, les ONG, les structures associatives où les partenaires financent, je dirais, le coût de ces audiences foraines. L'inconvénient avec les audiences foraines, c'est que vous pouvez régulariser tous les enfants un lundi,
oui,
mais le mardi, vous en avez d'autres qui naissent. Et donc, on remplit un verre qui se vide par le fond. Au Sénégal, on a à peu près 160 000, disons qu'on a à peu près 500 000, plus de 500 000 enfants qui naissent, qui sont attendus de naître chaque année, et on a 160 000, selon les statistiques, c'est qu'on a 160 000 qui ne seront pas enregistrés à l'état civil.
Ça veut dire que là, la tâche est immense aussi du fait de la pression démographique du continent africain.
Absolument, absolument.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille un voisin qui est à Bamako, au Mali. Bonjour Aboubacar.
Bonjour.
Vous souhaitez nous parler d'une jeune fille qui travaille chez vous depuis un an, je crois, Aboubacar.
Ah oui. Oui, c'est une jeune fille que j'ai engagée comme aide ménagère il y a fait cela une année.
Oui.
Bon, c'est une jeune fille que je ne suis plus toujours en train de lire avec mes neveux à la maison. Donc, elle était en train de prendre l'alphabet. Je l'ai demandé si elle a fait l'école. Elle m'a dit que oui, elle était à l'école, mais à cause de la guerre, elle a été obligée avec le reste des enfants de son village à quitter l'école. Donc, avec ça, leurs papiers, tout.
Oui.
Les parents ont quitté vraiment, donc ils ont laissé tout là-bas.
Oui.
Donc aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas qu'elle, c'est toute une communauté en fait qui a quitté, qui n'ont pas de papier.
Mmh.
Et avec la guerre qui continue toujours, ou bien les conflits qui continuent toujours, il y a plusieurs centaines ou bien milliers même d'enfants qui sont dans le même cas que cette jeune fille.
Mmh. Donc une jeune fille qui a été enregistrée à la naissance, qui du coup a été scolarisée sans problème, qui sait lire, qui se retrouve du fait du conflit aide ménagère chez vous. Et vous vous demandez comment l'aider du coup ? Qu'est-ce que vous vous êtes renseigné pour savoir comment vous pouvez l'aider à retrouver des papiers dans la mesure où elle a eu des papiers ?
Oui, en fait, moi, il y a une semaine de cela même, j'ai contacté sa maman avec laquelle j'ai discuté. Elle m'a dit qu'elle ne sait pas, qu'elle n'a pas... mais qu'elle est en train de chercher avec son papa, d'accord. Bon, moi, je les ai dit que je les ai donné un mois.
Mm-hmm.
S'ils n'arrivent pas à trouver maintenant, moi, je vais prendre les démarches nécessaires pour ça. Je vais aller me renseigner auprès des personnes qui peuvent m'aider.
Ouais. Bah, en tout cas, vous faites partie de ces citoyens qui se mobilisent, parce que ça aussi, c'est peut-être un sujet qui doit toucher toute la société. Combien de personnes sur le continent africain ont du personnel de maison qui n'a jamais été déclaré à la naissance ou qui a des papiers qui ont été perdus? Qu'est-ce qui est possible de faire dans un pays où le conflit entrave vraiment particulièrement la marge de l'administration, Laetitia?
Oui, alors, dans les zones qui sont touchées par des conflits, il y a ce problème de fonctionnement ou d'accessibilité aux services d'état civil. Donc, à ce moment-là, un des enjeux, c'est de mobiliser les communautés elles-mêmes, en particulier les chefs traditionnels, les chefs de village, les chefs de quartier, de les aider à suivre les naissances qui surviennent dans leur communauté, de les recenser, de les enregistrer. et à ce moment-là de s'organiser collectivement, c'est-à-dire au lieu que chaque parent se déplace, parcourt à pied une heure, fasse une heure, deux heures ou trois heures à pied pour aller au centre d'état civil le plus proche, à ce moment-là, c'est un relais qui recense sous l'autorité du chef de village, qui va recenser toutes les naissances, récupérer les informations concernant les parents et aller déclarer collectivement ses enfants. Ça, c'est un premier, je dirais, une des premières stratégies. La deuxième, en fait, tout l'enjeu, c'est vraiment de rapprocher les services d'état civil des populations. Oui, et notamment avec la santé, on a une expérience dont je pourrais parler après.
Ouais, mais alors, on va donner la parole à un auditeur qui nous appelle et on va revenir aussi sur le rôle des chefs religieux, des chefs coutumiers qui n'ont pas de transfert légal réellement de responsabilité sur l'état civil. Non
bah, au Sénégal, si, quand même. C'est-à-dire au Sénégal, les chefs traditionnels, les chefs de quartier sont des auxiliaires de l'administration et sont habilités à recueillir et à déclarer. Mais ailleurs, effectivement,
ailleurs.
Je ne sais pas.
Non, c'est, en fait, c'est l'une des propositions que j'ai faites. Fait. Mais je reviens là-dessus après.
Re-responsabiliser donc des chefs religieux, des chefs coutumiers sur ces questions-là. Hein, sur oui. Vous nous appelez 33 1 84 22 71 71. On accueille Séverin qui nous appelle de Goma en RDC. Bonjour Séverin.
Bonjour madame.
C'est vrai, votre fille de 9 ans n'a jamais été déclarée à l'état civil, c'est ça votre situation?
Oui, ma fille de 9 ans n'a pas encore déclaré à l'état civil. C'est très dommage pour moi parce que il faisait déjà maintenant 5 jours quand je suis revenu d'un autre village natal pour me rendre la situation, comment évolue l'enfant. Alors, avec ce 95 jours, en arrivant
alors,
à
attendez,
l'état civil...
Alors, attendez, 95 jours, hein, donc vous l'avez déclaré au bout de 95 jours, c'est bien cela?
Oui.
Mais c'était trop tard au regard de l'administration congolaise?
Oui, donc ça a été trop tard parce qu'on nous dit que c'est dans 90 jours que notre constitution nous a donné l'opportunité de déclarer l'enfant.
90 jours, et vous c'était 95, oui. À 5 jours près, c'était raté. Du coup, on vous a demandé de l'argent, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, et quand je me suis rendu au TRIPE, donc le tribunal de la paix, on m'a exigé de donner les sommes de 200 dollars.
200 dollars?
Oui, 200 dollars.
Pour déclarer un nourrisson?
Oui, pour déclarer, donc parce que là-bas, il faut que je puisse comparer avec l'enfant, pour que la nation sache que vraiment, réellement, c'est mon enfant.
Ouais, mais 200 dollars, c'est écrit quelque part que c'est 200 dollars ou c'est une personne qui vous a demandé cette somme?
Non, ce n'est pas écrit quelque part, mais c'est quelqu'un qui m'a écrit cette somme là-bas, parce que lui, il travaille avec le TRIPE, avec le tribunal ADP. Alors, c'est lui qui m'a donné tous les coordonnées là. Et puis, il m'a dit qu'après avoir donné ce 200 dollars là-bas, il aura encore une motivation, que je vais motiver l'avocat qui va m'aider à faire le démarche de cet enfant.
Ouais, la motivation de l'avocat. Et votre fille, est-ce qu'elle est scolarisée ou pas?
Oui, ma fille, elle est scolarisée, elle est en 5e primaire.
Dans une école privée?
Oui, dans une école privée, oui.
D'accord.
Scolaire et une base.
Donc là, vous payez les frais de motivation pour les enseignants. C'est le pays de la motivation. Merci beaucoup, Séverin, de nous avoir appelé pour ce témoignage. Qu'est-ce qu'il faut comment on résume tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Laetitia Bazivey, Béatrice Sepaille, députée centrafricaine, Dibam Diongyang, président de l'association de protection des droits des enfants au Tchad. Et donc l'UNICEF, par votre voix, Laetitia Bazivey, comment on sort de cela? Comment on retourne à l'échelon local pour arriver à une véritable efficacité? Comment on sort des sommes aussi qui sont demandées a posteriori, beaucoup trop importantes pour les familles? Et comme vous le disiez, Laetitia Bazivey, comment on arrête de vider une barque qui prend l'eau en permanence pour repartir du départ, c'est-à-dire de la déclaration à la naissance? Laetitia Bazivey.
Oui, il faut intervenir à plusieurs niveaux. Et nous, en tant qu'UNICEF, on accompagne à la fois... Donc, il y a une intervention à faire au niveau macro, c'est-à-dire aider le gouvernement et le ministère en charge de l'état civil à avoir une vraie stratégie nationale de promotion de l'enregistrement des faits d'état civil, parce que le problème se pose pour les naissances, mais aussi pour les décès. d'avoir une vision nationale. Déjà, ça, c'est le premier pas. Il faut que le gouvernement fixe une vision sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, de façon à avoir à terme un système d'état civil qui soit informatisé, et ça évitera justement les fraudes et ça facilitera l'accès, qui soit permanent et qui soit accessible. À un deuxième niveau, il s'agit, et je l'ai dit, c'est de rapprocher les services d'état civil des populations. Et par rapport à ça, il y a une stratégie qui a vraiment fait ses preuves au Sénégal, mais aussi dans d'autres pays de la région, c'est de renforcer le rôle du personnel de santé en matière d'enregistrement des naissances. Donc, il ne s'agit pas forcément de faire des agents de santé des agents d'état civil, même si ce serait ça l'idéal, mais il s'agit de s'assurer que le personnel de santé a les compétences pour informer, conseiller les familles, en particulier les femmes enceintes, et en même temps a des dispositifs et des procédures pour une fois qu'un enfant... Alors, je prends l'exemple du Sénégal. Au Sénégal, on a la loi qui permet la déclaration dans les un an qui suivent la naissance. Vous avez, au cours de cette première année, cet enfant va passer plusieurs fois par une structure de santé pour être vacciné. Et on a une chance au Sénégal, c'est que le taux de vaccination, notamment du BCG par exemple, est de 96%.
Donc forcément, à chaque fois, on va reposer la question à
exactement,
la famille. Est-ce que votre enfant est bien déclaré, etc.
Voilà, parce qu'en fait, dans le carnet de santé, on a intégré dans le carnet de santé de l'enfant la référence, est-ce que cet enfant, si cet enfant est enregistré à l'état civil, d'avoir le numéro d'acte. Si cet enfant n'est pas enregistré à l'état civil, ça apparaît dans le carnet de santé, à ce moment-là, ça alerte l'agent de santé, et on a mis en place, en tout cas dans un certain nombre de régions, un dispositif, c'est-à-dire on a un point focal dans les postes de santé, les centres de santé, qui peut être soit l'infirmier chef de poste, soit la sage-femme.
C'est le petit coin état civil.
Voilà, c'est le fameux coin état civil santé. Et en fait,
et là, on a tout de suite des résultats dès qu'on met en place un petit coin état civil.
C'est-à-dire qu'on a mis ça en place dans 4 régions et on a vu des résultats spectaculaires. Dans ces régions-là, le taux d'enregistrement des naissances a progressé de 44% entre 2014 et 2017. Dans une région en particulier, je donne un exemple, vous avez, dans la région de Sédiou, 15% avant 2014, vous aviez 15% des enfants de moins de 1 an qui avaient un acte de naissance, et en 2017, ils étaient 65%. Donc, les structures de santé jouent un rôle clé dans l'accès des populations, l'accès des familles aux services d'état civil.
Parce que c'est la structure la plus proche physiquement du bébé.
Juste pour comparer, on a au Sénégal, on a 690 centres d'état civil, mais par contre, on a 3000 structures sanitaires. Et ça fait la différence.
Bien sûr. Encore faut-il que les personnels de santé soient bien sensibilisés à ces questions-là. Juste un message d'Abakar, qui est ancien directeur de l'état civil à N'Djamena, qui vient de téléphoner, et un message pour vous, d'Ibam Diongyang, parce que vous êtes président de l'association de protection des droits de l'enfant au Tchad. Vous avez mentionné que qu'on avait 2 mois pour déclarer un enfant. Il nous dit que maintenant, depuis la loi de 2008, le délai est réduit à 1 mois. Le délai de déclaration de 2 mois, c'est ça, a été réduit à 1 mois. C'est bien ça ou pas, si j'ai bien compris? Ou est-ce qu'on a au contraire élargi le délai?
Il s'agit de quelle loi de 2008? Oui. De quelle loi?
Alors, on ne l'a pas au téléphone, donc ça serait bien effectivement qu'on sache. Enfin,
parce qu'on a l'ordonnance de
60... On ne va pas pinailler un mois près, mais la vraie question de fond, vous l'avez souligné pour l'UNICEF, c'est que plus on a de temps pour déclarer son enfant, plus on a de chances que les familles parviennent à déclarer leur enfant. C'est ça le fond du problème.
Exactement.
Non, quels sont, à votre avis, sur le Tchad et à la lumière de vos pratiques, de ce que vous faites avec l'Association de protection des droits de l'enfant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait davantage d'enfants déclarés?
Comme moi, j'ai l'habitude de dire que dans toutes les structures étatiques, l'État civil est un puissant moyen de gestion de la population, car il permet à l'État d'individualiser ses populations et aux ressortissants de...
Béatrice Epaille, il nous reste vraiment quelques secondes. Votre mot de conclusion?
Oui, en tant que députée, je voudrais parler d'une loi qu'on est en train de mettre en place. C'est le code de collectivité, où il y a des exigences de création de centres d'état civil, des centres secondaires d'état civil, d'implication, vous avez dit, des religieux qui...
Ça sera le mot de la fin. Merci à vous tous, en tout cas, pour ce débat.
Tout à l'heure.